franceinter.fr.
La réforme du bac et du lycée n'est pas encore finalisée par le gouvernement, mais elle inquiète déjà beaucoup les scientifiques et plus particulièrement ceux des sciences de la vie et de la Terre, un collectif de chercheurs en biologie dont plusieurs prix Nobel signaient mercredi une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer la mise en péril du socle de connaissances en sciences naturelles pour les plus jeunes. Axel Villard, on en discute avec celui qui lutte depuis septembre justement pour faire entendre les SVT dans cette réforme.
Oui Mathieu, nous sommes avec le microbiologiste Marc-André Sellos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, également professeur à l'université de Gdansk en Pologne, et vous publiez cette tribune avec des grands noms de la science française, Axel Kahn, Jules Hoffmann, Françoise Barré-Sinoussi, alors que les décrets sont sur le point d'être signés. Vous avez encore espoir de faire bouger les choses?
Plus tellement, mais on a l'espoir de marquer les idées, les consciences, pour que la prochaine fois, une telle débâcle ne se produise pas.
Alors quels sont les points que vous qualifiez de débâcle dans cette réforme et concernant les SVT ?
On est face à un gouvernement qui nous a préparé à la transition énergétique, à la transition environnementale, et on ne voit pas dans la formation des plus jeunes ce qui va leur permettre de s'outiller pour gérer un avenir où, d'une façon vraiment invasive, hein, au contact du quotidien, on voit les produits de la biologie et de la géologie qui envahissent nos marchés, nos supermarchés, notre vie, nos choix alimentaires, notre santé. Enfin, on a un besoin croissant, effectivement, que le citoyen de base soit capable de se repérer dans cette complexité. Et on est en train de lui enlever les outils pour ça.
Mais qu'est-ce qui va changer concrètement pour ceux qui n'auraient pas suivi un peu le déroulé de cette réforme? Qu'est-ce qui va changer pour les lycéens concernant la biologie?
Alors, il y a trois niveaux où il y a des changements qui peuvent être attendus. Déjà, au niveau du socle, on va se retrouver avec simplement, grosso modo, 30 minutes de sciences de la vie et de la Terre par semaine. Ça veut dire que information de base, il n'y aura pas grand-chose. Ensuite, dans les jeux d'options, on a des inquiétudes, parce qu'on n'est pas un bon biologiste sans maths et sans physique. Je ne suis pas en train de défendre une discipline, mais la construction d'un esprit, et derrière ça, il y a aussi des éléments d'interdisciplinarité. Or, dans le choix de deux matières dominantes en terminale, eh bien, on prendra SVT maths ou SVT physique, ce qui est une sorte de mutilation pour un biologiste, puisqu'on n'aura que deux choix, on pourra avoir que les maths ou la physique en plus. Et puis la dernière chose qui est très inquiétante, c'est qu'on n'a pas vraiment d'assurance sur de pouvoir poursuivre à faire des travaux pratiques, c'est-à-dire en petits groupes accompagnés, de faire ce qui est le cœur de nos disciplines, le travail d'observation et de déduction à partir du réel.
Qu'est-ce que vous craignez finalement à terme pour la formation justement des plus jeunes et ceux qui voudraient aussi se dessiner vers des carrières scientifiques ensuite?
Ils auront une formation évidemment renforcée en sciences humaines parce que là il y a une balance qui a été, un curseur qui a été poussé dans ce domaine-là, et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais d'un autre côté, moi j'ai peur qu'en tant que citoyen, ils ne soient pas capables de gérer des défis comme affronter par exemple les fake news et les rumeurs qui sont de plus en plus nombreuses, et elles se développent en fait sur l'absence de jugement critique et d'outils pour les juger. J'ai donc peur que le citoyen soit pas non plus capable, quand il fait un achat, de voir les implications que ça a sur les ressources naturelles ou sur les ressources génétiques. Ça, c'est pour l'aspect citoyen de base, c'est ce qui m'occupe le plus. Mais j'ai aussi un petit peu peur que, en attirant moins de gens vers ces disciplines-là, on ne fournisse plus la main-d'œuvre à une branche montante de l'économie qui représente quand même un tiers du CAC 40. Une branche montante de l'économie qui est la bioéconomie, l'économie de l'environnement, les technologies de l'environnement. Le ministère de l'Agriculture estime que la bioéconomie devrait générer 100 000 emplois dans les 8 prochaines années. Et on va aller les chercher ailleurs, ces emplois ?
Mais justement, vous parliez des options et vous disiez la majorité des lycéens vont choisir maths, physique. Pourquoi avoir peur que les lycéens ne choisissent pas la biologie ?
Moi, j'ai peur qu'ils n'en aient pas eu assez en amont pour faire ce choix, car c'est après avoir goûté quelque chose qu'on en apprécie le goût, hein. Enfin, si c'est bien enseigné, évidemment. Et puis, l'autre chose qui m'inquiète, c'est que on sait très bien qu'on est dans un monde où, et ça va pas disparaître du jour au lendemain avec la réforme, d'ailleurs qui est une réforme du contenu des programmes du lycée plus qu'une réforme du bac, les réflexes de sélection sur les maths et la physique vont pas disparaître demain. Si demain je veux faire une carrière vers une grande école, ou si je veux avoir la main sur mon avenir, j'ai plutôt intérêt à prendre maths physique, je ferai toujours des sciences nat dans la ligne droite. Le risque, c'est que je ne serai pas aussi bien formé, mais je prendrai pas de risque socialement dans ce choix-là.
Dans le texte, vous expliquez que cette réforme va entraîner une perte de liberté des générations futures. Pourquoi ce terme liberté ?
C'est quelque chose à laquelle beaucoup, tous les signataires et beaucoup de gens qui nous soutiennent sont attachés. L'idée, c'est que quand on fait un choix, on est libre. Mais faire un choix, ça veut dire avoir les outils, le minimum de culture pour comprendre ce qui se cache derrière un téléphone portable ou derrière un produit laitier qu'on achète, et un minimum de démarches, hein, d'outils méthodologiques pour non pas douter de tout et y penser une vague théorie du complot, mais être capable d'analyser ça et de dire, bon, bah voilà, plutôt ce yaourt-là que celui-là. Non, ce téléphone-là, il a un coût environnemental que je ne veux pas payer. Bref, la liberté, c'est de l'information. Et aujourd'hui, l'information, c'est surtout, c'est en très grande partie, une information scientifique.
Vous êtes professeur dans une université en Pologne, vous travaillez aussi au Brésil. Ce niveau de base en sciences naturelles, il est différent dans ces pays ?
Ah, alors c'est dur de juger parce qu'effectivement l'accès à l'université n'est pas aussi large. Et ça, on peut le déplorer d'ailleurs. Mais je vois très bien effectivement que mes étudiants ont une formation qui est tout à fait différente. Je dirais qu'il leur manque des sciences humaines, pour le coup. Le recul sur l'histoire ou des aspects philosophiques leur manque plus, si je peux faire une moyenne. Hein. Mais je vois bien qu'au niveau scientifique, ils ont plus ça dans la peau.
Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la façon dont on considère les sciences dans notre pays et le peu d'empressement, au fond, pour les valoriser ? Enfin, ça se voit par des exemples comme celui-là.
Ben oui, puis on avait aussi dressé un consortium de 11 institutions de recherche, 4 académies, 160 entreprises, dont certaines du CAC 40, pour le coup. On avait demandé d'être reçus par tout un tas de gens. Aucun parlementaire ne nous a reçus, par exemple.
Ça n'intéresse pas aujourd'hui la classe politique ?
Je pense qu'on a une classe politique qui est formée aux sciences humaines. Et moi, j'ai entendu quelqu'un me dire que lui, ça, il n'avait jamais fait de SVT et ça n'avait pas changé de sa vie. Bon, s'il en avait fait, il se serait rendu compte qu'on ne peut pas en juger tant qu'on n'a pas moi-même avec les SVT et moi-même sans les SVT.
Vous avez aussi reçu le soutien de certaines personnes sur cette antenne. On va écouter l'extrait d'une chronique de Nicole Ferroni dans la matinale.
Ah, superbe celle-là.
Pour avoir été prof de SVT, je connais trop le danger du manque de science chez les élèves. Parfois, c'est très mignon quand ils demandent « Et madame, il a fallu combien d'hommes pour entasser toutes ces montagnes ?» Mais quand, en troisième, pendant un cours sur le sida, une élève demande « Madame, en fait, pourquoi on leur donne pas des Actimel aux gens qui ont le sida ?» Parce que là, vous montrez les gens qui ont le sida, ils ont pas de défense naturelle, et Actimel, c'est pour les défenses naturelles. Et ben là, on se dit quoi ? « Hey, bonne idée, Julie ! Appelons vite le SIDAction pour leur suggérer un grand partenariat avec Danone. » Non, on se dit qu'on l'a échappé belle, et qu'elle a bien fait, Julie, de venir en SVT.
Voilà, c'était Nicole Ferroni le 21 février dans le 7-9 d'Inter.
Marc-André Sella, si jamais on veut vous soutenir, même si les textes sont presque signés, est-ce qu'on peut encore le faire d'une manière ou d'une autre ?
Oui, alors l'Association des professeurs de biologie et géologie, la APBG, a organisé un appel à soutien que vous pouvez trouver sur son site. Ça se trouve très facilement sur Internet, APBG. Et c'est une façon de faire, mais il faut aussi voter bien.
Merci beaucoup, ça c'est pour les prochaines élections. Déjà on s'y prend à l'avance, Marc-André Sellos, merci à vous. Vous êtes microbiologiste et vous signez comme beaucoup de confrères cette tribune justement qui est sortie mercredi dans les pages du Monde. Merci à vous et Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, vers des prises de sang sans piqûre, une start-up américaine a mis au point un dispositif pouvant prélever le sang sans douleur. 30 micro-aiguilles aussi fines qu'un cil se chargent de la prise de sang sur la partie interne du bras. Ce boîtier à usage unique récolte 0,1 millilitre de sang en moins de 2 minutes et ne laisse qu'une petite marque. D'autres start-up ont proposé leur prototype, mais une seule a reçu l'autorisation de commercialisation pour l'Europe. Elle sera d'abord distribuée dans les laboratoires. Des crevettes remueuses d'océan. Selon les paléobiologistes de l'université de Cambridge, les Artemia, ces minuscules crevettes, pourraient jouer un rôle tout aussi important que le vent et les vagues dans le mélange de l'eau des océans. Les expériences en laboratoire de spécialistes des courants océaniques, publiées dans la revue Nature, montrent que les Artemia créent des tourbillons capables de mélanger les eaux en surface et les eaux profondes, transportant chaleur, microbes et carbone vers le bas. Une preuve de plus que l'écologie animale est un facteur majeur à prendre en compte dans le fonctionnement des océans. Et puis une naissance exceptionnelle pour terminer, celle d'un bébé gorille qui a eu lieu ce dimanche au parc zoologique national de Washington. Ça fait 9 ans que le personnel de ce zoo attendait ce rare événement. Prénommé Moke, ce petit gorille des plaines occidentales est le fruit de l'union entre Kalaya, une mère âgée de 15 ans, et Baraka, le mâle reproducteur. Pour préparer Kalaya à la naissance, les vétérinaires lui ont montré des photos de mère gorille et une peluche pour lui montrer justement comment elle était. Le WWF rappelle que le braconnage et les maladies ont réduit les populations sauvages de ce gorille. En singe de 60% au cours des 20 à 25 dernières années. Des images du bébé moqué avec sa mère sont à retrouver sur la page Facebook de l'émission.